Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Les travailleurs ont l'honneur aujourd'hui 1er mai, mais au Maniema, la délégation syndicale peint un tableau sombre des fonctionnaires dans cette province. De leur côté, les syndicats des anciens de la RDC appellent le gouvernement à améliorer leurs conditions socio-professionnelles. En réponse, le ministre de l'Emploi et du Travail rassure, le gouvernement a pris des dispositions pour améliorer les conditions professionnelles de tous les travailleurs congolais. Dans le territoire de Beni, plusieurs champs agricoles dans le Rwenzori, ravagés par des éléphants en provenance du parc national des Virunga, l'alerte est de la nouvelle société civile locale. Elle interpelle les autorités compétentes et l'ICCN. Et puis, le manioc rend-il bête? La question a réuni experts et chercheurs dans une conférence scientifique mardi à l'université de Kinshasa. Pour en parler, nous recevons Daniel Okitundu, médecin directeur du Centre neuropsychopathologique CNPP de Kinshasa. Bonjour et bonne fête à tous les travailleurs. Le monde célèbre donc aujourd'hui la journée du travail. Au Maniema, cependant, le président provincial de la délégation syndicale des fonctionnaires peint un tableau très sombre des fonctionnaires dans cette province. Kabumba Fungamali Fulgence s'étonne et regrette, dit-il, de constater qu'une journée si importante dédiée à ceux qui constituent la colonne vertébrale de l'État congolais passe inaperçue. Ce dernier demande aux dirigeants de sa tout en encourageant ses pairs. Kabumba Fungamali s'exprime au micro de Florence Kizalunga.
Franchement, c'est malheureux. Comme nous sommes là, nous sommes payés un salaire non décent. Un chef de bureau qui vous touche 100 dollars aujourd'hui, alors qu'il a tant d'enfants qui doivent scolariser, même au niveau de l'université. 100 dollars. Et il y a plusieurs, la majorité des fonctionnaires et agents de l'État ne sont pas payés. Ils ont des numéros matricules non payés. Et comment ils doivent rendre service à l'État? Et l'État attend quel résultat? La plupart des fonctionnaires, quand ils tombent malades, aucun avantage social n'est payé aux fonctionnaires. Même la prime, nous sommes en train de nous poser mille et une questions. Est-ce que franchement les dirigeants que nous avons élus sont véritablement dirigeants de ces fonctionnaires? Parce que les travailleurs, c'est la colonne vertébrale de l'État congolais. C'est la main d'œuvre de l'État congolais. Si les fonctionnaires, l'agent, l'enseignant n'est pas bien payé, n'est pas bien entretenu, et s'attend à quel rendement? Alors, nous pensons que les dirigeants congolais doivent s'amender. Ils doivent revenir à la raison. Ils doivent revenir et reconnaître et à respecter les droits des autres, les droits des fonctionnaires de l'État. Alors, les fonctionnaires de l'État, je les donne encore un courage. Nous devons nous mettre debout et dire non à cette violation que l'État congolais est en train d'orchestrer contre nous pour notre vie.
Par ailleurs, réunis en Assemblée générale, les enseignants membres de la synergie des syndicats des enseignants de la RDC appellent le gouvernement à améliorer leurs conditions socio-professionnelles. Ils ont lancé cet appel mercredi 30 avril à l'occasion de la Journée nationale de l'enseignement. Ces professionnels de la CRE ont également sollicité l'implication de la ministre de l'Éducation nationale pour la réhabilitation de l'inspection générale à ses fonctions régaliennes pour la crédibilité des épreuves certificatives nationales prévues dans quelques semaines. Suivez leur porte-parole au micro de Blaise Ndongala Maenda.
Les enseignants réunis en Assemblée générale demandent au gouvernement de donner des réponses aux problèmes des enseignants NP et NU, aux problèmes de soins de santé des enseignants, de donner des réponses aux conditions d'accueil des élèves ainsi qu'à l'épineuse question de la retraite pour plus d'efficacité de notre système d'enseignement. Les évaluations certificatives seront bientôt organisées. La synergie des syndicats des enseignants demande au ministre de tutelle de rétablir l'inspection générale de l'enseignement dans ses missions légales et régaliennes pour éviter des interférences préjudiciables à la qualité des épreuves et de payer les arriérés des primes des inspecteurs et intervenants pour garantir la bonne passation des épreuves. La synergie des syndicats des enseignants de la RDC invite Madame la ministre de l'Éducation nationale de s'impliquer personnellement pour garantir des évaluations crédibles dans les différentes phases du processus.
En réponse, le ministre de l'Emploi et du Travail affirme que le gouvernement a déjà pris plusieurs dispositions afin d'améliorer les conditions socio-professionnelles de tous les travailleurs congolais. Dans une interview accordée à Radio Kapi à l'occasion de la Journée internationale du travail célébrée aujourd'hui 1er mai, Ephraim Akwakwa rassure quant à la question de l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel SMIG. Il revient ici sur les différentes résolutions prises au cours du dernier Conseil national du travail. Le ministre Ephraim Akwakwa, joint par Grace Amzati.
L'ajustement du SMIC avec effet dès la fin du mois de mai 2025 a envie de renforcer les pouvoirs d'achat des travailleurs et travailleuses en RDC. La fixation des nouveaux SMIC payables à partir du mois de janvier 2026. L'opérationnalisation de la couverture santé universelle à 2,5% par travailleur par mois. Globalement, il faudra retenir que les résultats sont positifs parce que nous avons donné les ressources, notamment supplémentaires à l'INPP, aussi à l'ONEM, mais aussi nous avons tablé sur la question des SMIC par lequel nous avons d'abord fait un ajustement pour le mois de mai qui sera déjà payé à la fin du mois de mai avec un nouveau SMIC dont je ne sais pas vous donner la teneur ici parce que je garde la primaire d'abord à la première ministre aussi au président de la République. Mais sinon, je dois vous rassurer que quand les travailleurs congolais seront informés, ils seront le plus heureux. Moi, je crois, après ce résultat-là, nous devons compter la RDC parmi les pays qui payent très bien, qui ont un bon SMIC en Afrique.
Justice. Le tribunal militaire de garnison de Kalemi, dans le Tanganyika, a condamné plusieurs personnes hier, parmi elles des officiers militaires et policiers. Des sources sur place rapportent que le jugement a été rendu dans trois causes différentes. Les prévenus sont condamnés à la peine capitale, d'autres à la prison à perpétuité et à 20 ans de servitude pénale. Une occasion pour le président du tribunal militaire de garnison de Kalemi d'inviter la population à faire confiance à la justice. Paulin Munanga.
La première cause implique le capitaine Dunia de FRDC poursuivi pour meurtre et il est condamné à perpétuité. La seconde affaire concerne les prévenus Mwamba Kitoko Sinaï et consorts poursuivis pour association de malfaiteurs, vol à main armée et détention illégale d'armes et munitions de guerre. Deux des détenus sont condamnés à la peine de mort et un à 20 ans de servitude pénale. La troisième cause oppose le ministère public au prévenu Jean-Claude Nyembolumbu, commissaire principal de la police et consort, poursuivi pour association de malfaiteurs et vol à main armée. Tous ont été condamnés à la peine de mort. Le président du tribunal militaire de garnison de Kalemi invite la population à faire confiance à la justice. Colonel Désiré Majunda Mukole.
La population de Tanganyika doit continuer à faire confiance à l'État, confiance aux institutions régulières de la République. Elle n'est pas abandonnée. Nous sommes là. Ce tribunal est là pour elle. Et toutes les fois qu'il y aura des cas que la population n'hésite pas à dénoncer, et le tribunal va faire son travail.
Direction le Sud Kivu. Les balles crépitent dans la ville d'Uvira depuis la nuit d'hier entre les FARDC et les Wazalendo. Les communes de Kasenga, Kavimvira et Mulongwe sont les plus affectées par les combats entre ces deux forces, pourtant engagées ensemble pour lutter contre l'avancée des rebelles AFC M23 dans la ville d'Uvira. Leur cohabitation semble difficile à cause des conflits de positionnement et de leadership. C'est ce que nous dit Blaise Ndongala Mayanda.
Les coups de balle se sont poursuivis dans l'avant-midi sur les collines au-dessus de la ville d'Uvira. La goutte d'eau qui a fait déborder les vases, c'est notamment les redéploiements des FARDC dans les crêtes des montagnes pour mieux sécuriser cette ville. Mais pour les combattants Wazalendo, ces crêtes des montagnes constitueraient leur lien stratégique de prédilection à ne pas partager avec l'armée loyaliste. Ces bras de fer entre les deux forces engendrent régulièrement des incidents sécuritaires dans la ville d'Uvira et affaiblit leur collaboration. Les conseils de sécurité regroupant les institutions de la province et à leur siège dans la région ont tenté en vain de créer les climats d'attente entre les FARDC et les combattants Wazalendo. Les uns et les autres sont opposés par les conflits d'intérêts et de leadership, ce qui engendre l'indiscipline et l'ingérence dans la gestion de la chose publique et menace dangereusement la cohésion, l'esprit d'équipe et la mise en place d'un cordon sécuritaire qui assure la population. Pendant ce temps, nous apprenons que les rebelles de l'AFC M23 auraient débordé hier les montagnes qui séparent la chefferie de Kaziba jusqu'à Luvungi, dans la plaine de la Ruzizi, à moins de 50 km de la ville d'Uvira.
Au Nord Kivu voisin, des violents combats opposent ce jeudi les rebelles de la FCM-23 toujours aux groupes armés locaux dans la partie nord du territoire de Masisi. Ces affrontements qui en sont à leur troisième jour se poursuivent dans la localité de Nyangé, groupement Bachali Mokoto, indique plusieurs sources. Les deux forces tentent chacune d'occuper cette zone reconnue pour sa grande potentialité agricole. Des détails avec Blaise Shindani Kambala.
Les combattants du groupe armé Alliance des Nationalistes Congolais pour la Défense des Droits Humains, ANCDH, de Jean-Marie Bonané, ont attaqué à la nuit tombée hier mercredi la position des rebelles AFC M23 sur la colline Kivugura, localité Nyangi. C'est dans le groupement Bachali Mokoto. Les combats se sont poursuivis au-delà de 20h hier avant de reprendre encore tôt ce jeudi, indiquent nos sources. Elles précisent que des combats ont éclaté mardi dernier dans cette zone occupée depuis plusieurs mois par les rebelles AFC M23. Des détonations d'armes lourdes et légères, voire des mortiers, sont entendues dans la localité. Rappelons que ces combats ont commencé dans la localité de Biboué avant de s'étendre vers celle de Nyangé, ce qui rend la vie difficile pour la population civile. Certains habitants, contraints de fuir les milieux, se dirigent vers Mpati ou Kalengera, alors que d'autres restent terrés dans leur maison. Selon nos sources, la situation reste précaire et volatile dans la zone.
Restons au Nord Kivu. Plus de 140 000 personnes retournées bénéficient d'une assistance alimentaire dans le territoire de Rutshuru. Sur son compte X, le PAM, Programme Alimentaire Mondial, qui procure cette assistance, indique que la distribution a commencé mardi 29 avril dans les zones de retour de ces personnes. C'est précisément dans les villages Kabaya, Rumangabo, Rugari et Kalingera. Cette distribution des vivres vise à faciliter la réinstallation de ces personnes après une longue période de déplacement suite à l'occupation de plusieurs villages de Rutshuru par le M23 depuis 2022. Des milliers d'habitants avaient fui vers Goma, où ils ont passé plus de 2 années dans les sites de déplacés. Parallèlement à cette assistance alimentaire, le PAM initie des séances de sensibilisation pour les bénéficiaires aux bonnes pratiques nutritionnelles pour les enfants. Au moins 49 000 personnes en sont déjà bénéficiaires, selon le PAM. Du côté de l'Ituri, des combats signalés la nuit de mercredi à ce jeudi à Nyamamba, sur le territoire, le littoral plutôt, du lac Albert, dans le territoire de Djougou. Ils opposent les FARDC aux éléments de la Convention de la Révolution Populaire, CRP, milice de Thomas Lubanga. Selon des sources sécuritaires, les rebelles ont attaqué une position de la force navale pour s'effrayer le chemin vers la localité de Chomia. Ils projetaient d'attaquer ce centre de négoce situé à quelques kilomètres de Bunia, ce qui a occasionné un mouvement des populations. Aucun bilan n'est disponible en ce moment. Martial Kiza nous relate les faits.
C'est vers 21h local que des hommes armés du mouvement rebelle Convention de la Révolution Populaire, CRP de Thomas Lubanga, ont attaqué la position de FARDC au centre de Nyamamba. Des sources militaires rapportent qu'après avoir été repoussés par l'armée dans les collines de Nyamamba, ces rebelles sont revenus à la charge vers 5h ce matin. Ces miliciens veulent déloger les militaires de l'unité commando et ceux de la force navale qui sont déployés sur le long du littoral du lac Albert pour pouvoir attaquer plus facilement les centres commerciaux de Chobia situés à 12 km de Nyamamba. Ces affrontements ont provoqué le déplacement de nombreux habitants, parmi eux des dizaines de familles qui venaient de retourner à Nyamamba, obligées de fuir de nouveau vers Chobia et d'autres entités plus sécurisées. En fin de matinée, des sources locales affirmaient que des combats se poursuivaient toujours dans les collines surplombant Nyamamba. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Autre nouvelle, je vous l'ai dit dans les titres, dans le territoire de Beni, plusieurs champs agricoles dans le secteur des Rwenzori ont été ravagés par des pachydermes en provenance du parc national des Virunga. Selon la nouvelle société civile locale, 2 semaines durant, ces éléphants ont détruit les champs de la population sans aucune intervention des responsables du parc, malgré plusieurs alertes. Elles demandent aux autorités compétentes ainsi qu'à l'ICCN, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, de considérer cette double menace alimentaire et sécuritaire qui pèse sur la population dans cette entité. Le récit de Marc Marofimbo.
La nouvelle société civile dans le secteur de Rwenzori précise que deux semaines durant, jour après jour, les éléphants à provenance du parc national de Virunga ont détruit les produits champêtres dans les blocs agricoles de Mayele, Virunga, dans les groupements de Malambo et Bolema. Une situation qui met à mal la sécurité, y compris alimentaire, de la population. Meleki Mulala, coordonnateur de la société civile dans le secteur de Rwenzori.
De leur passage, les éléphants ils détruisent les cacao, les bananeraies, les tomates, les aubergines et autres cultures. Depuis ces deux semaines-là, les gens sont en train d'alerter les responsables de l'ICCN secteur nord pour leur demander une intervention urgente, mais rien n'est fait comme action de leur part. C'est pourquoi la population elle est en train de demander au gouverneur de la province du Nord Kivu de voir comment intervenir le plus vite possible pour sauver les cultures de la population.
Tous nos efforts pour avoir la réaction de l'ICCN n'ont pas abouti. Signalons que depuis l'année dernière, l'ICCN, à travers la Fondation Virunga, a initié les projets d'installation des fils électriques autour du parc dans les groupements de Malambo, Bolemba et de Boissongora, où les pachydermes commettent les mêmes dégâts. La société civile locale demande à l'ICCN d'accélérer les travaux au vu des risques encourus par la population. Beni Marc Marofimbo, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Les relations économiques entre l'Angola et l'Égypte prennent une nouvelle dimension à l'occasion de la visite officielle du président angolais João Lourenço au Caire du 28 au 30 avril 2025. Les deux pays ont signé plusieurs protocoles d'accord dans des secteurs clés, télécommunications, technologies de l'information, logement et infrastructures. Lors d'une conférence de presse conjointe, le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi a déclaré « Ces accords permettront de renforcer les mécanismes de coopération entre nos deux nations. » Fin de citation.
L'invité.
Le manioc rend-il bête? C'est autour de cette question que experts et chercheurs étaient réunis dans une conférence scientifique le mardi 28 avril à l'université de Kinshasa pour analyser l'impact de cet aliment de base largement consommé en RDC. Daniel Okitundu, médecin directeur du Centre neuropsychopathologique CNPP de Kinshasa, était parmi les intervenants. Il apporte ici un éclairage médical et scientifique sur les effets possibles du manioc sur le cerveau et le système nerveux. Daniel Okitundu, notre invité, s'entretient avec Benjamin Mudumbi.
Bonjour, monsieur Daniel Okitundu.
Bonjour.
Quel était l'intérêt d'aborder la question « Les maniocs rendent-ils bêtes ?» dans une conférence aussi scientifique?
Oui, c'est pour répondre à la préoccupation de la population par rapport à ce qui circule dans les réseaux sociaux. Et beaucoup de gens se sont posés des questions pour savoir si le manioc, qui est l'aliment principal de notre pays, rend réellement bête. Qu'est-ce que les scientifiques pense. Alors, il fallait tenir cette conférence pour éclairer l'opinion sur les bienfaits du manioc et le risque sanitaire lié à la consommation de produits à base de manioc.
Existe-t-il un lien entre la consommation de manioc et des troubles neurologiques ou cognitifs?
Oui, il existe un lien entre la consommation de produits à base du manioc amer mal détoxifié ou non détoxifié et le trouble neurologique. Alors, il y a deux types de manioc, le manioc doux et le manioc amer. Le manioc doux, on peut consommer ces produits sans problème. Mais le manioc amer, il faut absolument le détoxifier d'une substance qui est un poison qu'on appelle cyanure, constitué de carbone et d'azote.
Vous ne pensez pas qu'il serait plutôt impérieux de les identifier pour limiter les dangers que vous venez de signaler tout à l'heure?
Les deux types de manioc sont bien connus des agriculteurs, mais le problème c'est lequel? Du point de vue de la production vivrière, c'est le manioc amer qui est plus rentable parce qu'il pousse dans des conditions difficiles et le rendement est important. Et puis les voleurs ne peuvent pas les voler, ni les animaux qui consomment le manioc ne peuvent les consommer.
Mais après, c'est les populations qui sont exposées.
Oui, les populations sont exposées. Ce n'est pas du fait parce qu'on ne consomme pas le manioc amer. Tout aliment doit être bien préparé pour qu'il soit sécurisant du point de vue alimentaire. Alors le produit à base de manioc amer, pour le consommer, il faut être sûr que ça a été détoxifié.
Pouvez-vous nous expliquer l'effet de certaines substances contenues dans les maniocs sur le système nerveux humain?
Oui, dès que le manioc est récolté, et qu'il est travaillé, ça libère ces substances qu'on appelle glycoside cyanogène, libère l'acide cyanhydrique, qui est constitué de l'hydrogène, du carbone et de l'azote. C'est un poison très puissant. Il peut aussi modifier négativement le fonctionnement du cerveau et provoquer une excitation et générer ainsi des troubles de l'humeur, des troubles émotionnels et des troubles de comportement. Mais il y a une autre substance, le cyanate, qui est une substance très dangereuse parce qu'elle modifie les protéines qui se trouvent dans notre corps et au niveau du cerveau. Ça provoque la mort progressive des cellules du cerveau. Ce qu'on appelle la neurodégénérescence. Il y a aussi une autre substance qu'on peut avoir, qu'on appelle ATC en abrégé, qui est excitotoxique, c'est-à-dire que ça excite le cerveau. Et pour que toutes ces affections apparaissent, il faut qu'on ait une alimentation insuffisante en protéines, en vitamines dont nous avons besoin pour bien fonctionner, pour bien vivre.
Que recommanderiez-vous aux populations qui consomment les maniocs comme aliments de base pour éviter d'éventuels risques neurologiques?
Il faut détoxifier le manioc. Dans le technique traditionnelle, le manioc, qu'il soit doux et amer, on le mettait dans l'eau des marais ou à côté des rivières pendant 3 à 4 jours et après on les séchait, les cyanures étaient déchargées du manioc. Maintenant, à l'université de Kinshasa, à la faculté des sciences, il y a la professeure Yanjo qui a mis au point des techniques qui permettent de détoxifier convenablement le manioc amer et le consommer de façon sécurisante. Donc, il faut informer et sensibiliser la population sur les risques qu'il y a à consommer le produit de manioc amer non détoxifié et sur les méthodes actuelles simples qui permettent de décharger ce manioc du cyanure. Mais les procédures de traitement alimentaire de fer de manioc éliminent les cyanures et comme ça le fer de manioc constitue par ailleurs un bon aliment. Pourvu qu'on ne mette pas les bicarbonates. Mettre les bicarbonates dans le pondou, c'est abîmer la valeur nutritionnelle et protectrice de fer de manioc pour le système nerveux.
Professeur Daniel Okitundu, je vous remercie.
Notre invité est médecin directeur du Centre neuropsychopathologique CNPP de Kinshasa. Il répondait aux questions de Benjamin Moudoumbi. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.